Évidemment, c'est le choc, c'est la consternation et c'est la colère suite à l'assassinat de cette travailleuse, cette jeune femme qui travaillait dans l'industrie du sexe à Sainte-Foy, Québec, Marilyn Lévesque. 22 ans seulement. Mais c'est surtout le dossier qui concerne le présumé meurtrier, Eustachio Gayese, qui avait été reconnu coupable de l'assassinat froid de sa conjointe, Chantal Deschênes. Il avait écopé d'une peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Et l'interrogation, c'est de savoir, mais comment se fait-il qu'on avait recommandé des sorties, donc une libération conditionnelle, mais à caractère sexuel thérapeutique, en disant, ça va lui faire du bien d'aller obtenir du sexe, si on veut, dans l'industrie de la prostitution. Un ancien commissaire, l'avocat Jean-Claude Boyer, n'en croit pas ses yeux. On dit, c'est comme faire entrer un loup dans la bergerie. Et ça tombe bien, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, il signe un dossier complet, fort intéressant, sur les libérations conditionnelles et sur ces criminels trop dangereux pour vivre en société et qui vont probablement ne jamais bénéficier de libération conditionnelle. Yves Thériault est journaliste documentariste spécialisé dans les affaires criminelles et judiciaires. Il a écrit l'essai Choc, je dirais, il y a un bon moment déjà, Tout le monde dehors, enquête sur les libérations conditionnelles chez Libre Expression, et il est le concepteur de la série documentaire En prison Z-Télé. Et comme on se connaît, je suggère à Yves Thériault de me tutoyer, et je ferai de même avec lui. Bonjour Yves.
Bonjour Paul.
Écoute, ton dossier fascinant dans le Journal de Montréal, je te dis, d'abord, premièrement, bien étoffé par des statistiques, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement dire, Yves, que tu apparais dans le Journal de Montréal avec ton dossier au moment où on ne comprend pas, et ça concerne les libérations conditionnelles, comment se fait-il que ce type qui avait assassiné froidement sa conjointe en 2004, pouvait circuler, disons, assez librement. Je comprends qu'il avait fait des démarches thérapeutiques, mais dans un milieu où, visiblement, il devient extrêmement dangereux.
Écoute, Paul, le timing, des fois, c'est drôle comment ça arrive. Ce dossier-là est en préparation depuis plusieurs mois. Et une des choses qu'on dit dans le dossier, c'est que les criminels qui sont condamnés à la prison à perpétuité et qui sont éventuellement libérés, que ce soit en maison de transition ou en libération conditionnelle totale, généralement, c'est des gens qui ont un taux de récidive plus bas que les autres catégories de criminels. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Les critères sont beaucoup plus sévères pour qu'ils puissent accéder à une libération parce qu'ils font l'objet d'une plus grande surveillance dans la communauté. Mais là, dans ce cas-ci, dans le cas bien précis là, de Eustachio Gazelle, il y a eu vraiment un manquement. Ils l'ont échappé. C'est une erreur de jugement incroyable. Je suis comme le commissaire, l'ex-commissaire Boyer. J'ai jamais entendu parler. J'en ai lu des centaines de décisions de la Commission des libérations conditionnelles. J'ai jamais entendu parler d'une chose comme ça, d'une autorisation ou d'une stratégie, parce que c'est le terme qu'on emploie dans la décision, pour permettre à un délinquant qui est en libération conditionnelle ou dans une maison de transition d'avoir des contacts avec des femmes pour assouvir ses besoins sexuels et rien d'autre. Il faut bien comprendre là que c'est une erreur de jugement de la part de l'agent de libération conditionnelle qui était responsable de cet individu-là. Et les commissaires qui l'ont rencontré au mois de septembre 2019, dans leur décision, se sont indignés de cette situation-là et ont jugé que c'était inapproprié et lui ont refusé sa demande de libération conditionnelle, lui ont permis de continuer son séjour en maison de transition pendant 3 mois. Mais parmi les conditions qui lui étaient imposées, il devait rapporter à son agent de libération conditionnelle tous ses rapports avec les femmes, tous ses rapports intimes avec les femmes, que ce soit dans un cadre sexuel ou non sexuel. Alors, de deux choses l'une, ou il a fait fi complètement de cette obligation-là, ou son agent de libération conditionnelle a fait preuve de laxisme ou a toléré qu'il continue à fréquenter des établissements comme un salon de massage. Et c'est invraisemblable. C'est une aberration. Et j'espère que le service correctionnel canadien va faire preuve de transparence et va expliquer sur la place publique qu'est-ce qui s'est passé Et comment on en est arrivé à cette situation-là?
Mais toi, Yves, qui es un expert justement sur le domaine des libérations conditionnelles, quels sont les critères d'évaluation? D'ailleurs, ton dossier parle de ces criminels trop dangereux pour vivre en société. Donc, c'est pas mesurable avec un indice précis. C'est pas des statistiques qui révèlent quel est le niveau d'intensité du danger. Alors, quelle est la formation de ces évaluateurs-là? Et sur quoi se base-t-on pour évaluer la dangerosité d'un criminel?
Bien, les criminels qui sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité s'en vont dans des pénitenciers fédéraux. Et évidemment, ils sont dans un milieu clos. C'est facile de les observer en tout temps. On peut voir si ils ont cheminé, par exemple, s'ils ont fait une prise de conscience, s'ils éprouvent du remords pour les victimes, s'ils suivent des thérapies, s'ils font, par exemple, la justice réparatrice, ou s'ils vont être des détenus exemplaires, est-ce qu'ils vont faire le trouble en prison, est-ce qu'ils vont continuer à consommer, parce que vous savez, c'est facile de consommer en prison, il y a toujours possibilité d'avoir que ce soit de la drogue ou de l'alcool. Donc ces gens-là sont sous observation et quand on voit qu'il y a un cheminement, évidemment ils sont évalués continuellement par des criminologues, des psychologues, des psychiatres au besoin. Donc, ils sont comme quasiment comme des rats de laboratoire, je dirais, là. On les observe, puis quand on pense qu'ils ont cheminé assez ou qu'ils se sont réhabilités en partie, on va y aller progressivement. On va leur donner, d'abord, premièrement, des sorties, ils appellent ça des permissions de sortie avec escorte, et là, faire attention au sens des mots, là.
Oui, 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 mais
c'est le... Je parle pas d'escorte sexuelle, mais là, je parle d'escorte gardien.
Je t'arrête d'ailleurs, Yves, pour dire que le présumé meurtrier de cette jeune travailleuse du sexe de 22 ans avait passé toutes ces étapes-là, lui.
Oui, mais d'ailleurs, c'est un grand manipulateur, parce que j'ai lu dans un article, je pense que c'est dans Le Soleil, que les filles qui travaillaient au salon de massage l'appelaient le bel italien.
Oui.
Et donc, c'est un grand manipulateur, mais j'ai aussi quelqu'un que je connais à l'intérieur du système qui l'a fréquenté dans un établissement minimum et qui m'a écrit ce matin, qui m'a dit c'était écrit dans son front.
Ah.
Tu vois? Fait que, tu sais, il y a évidemment. Ces criminels-là, c'est des gens qui sont très manipulateurs. Et c'est des gens, des fois, qui passent leur temps à s'entraîner, qui paraissent bien, qui font tout ce qu'il faut pour donner l'impression qu'ils sont réhabilités.
Avec le danger que cela comporte. Mais ton dossier absolument. Dans le Journal de Montréal, Yves, c'est de nous expliquer ce matin qu'il y a des criminels, d'ailleurs, je cite le grand titre en page 27, qui ne sont pas sortables. Sortables, bien sûr, du milieu carcéral. Or, Yves, on est d'accord, le milieu carcéral au Canada vise la réhabilitation. Et moi, ce que je te pose directement comme question, après avoir regardé ces criminels qui ont participé aux meurtres les plus crapuleux, les actes criminels les plus effroyables qu'on ait vus dans notre histoire, qui sont toujours derrière les barreaux, est-ce que la nature et les circonstances d'un crime, de meurtre, vont dicter la suite des choses? Je vais te donner un exemple. Je pense pas qu'on revoie Paul Bernardeau en liberté un de ces jours.
Non, et on peut dire la même chose pour Lucas Rocco Magnotta.
Et Normand Guérin et Gilles Pimparé.
Oui, bon, mais ça, c'est un bon exemple. Mais moi, je pense, je ne peux pas l'affirmer, là, mais moi, je pense que la médiatisation d'un dossier peut nuire à un individu, à un criminel, comme par exemple, là, les deux, Gilles Pimparé et l'autre, qui ont jeté les deux jeunes adolescents là, en bas du pont Jacques-Cartier en 1979.
Ouais. Mm-hmm.
Il y en a un des deux qui a comparu devant la commission des libérations conditionnelles à près d'une dizaine de reprises. Il n'a essuyé que des refus. L'autre, il n'a jamais comparu, il n'a jamais demandé de libération conditionnelle.
Alors, celui qui a comparu à multiples reprises et de qui on considérait qu'il était trop dangereux, c'était Gilles Pimparé. Mais Normand Guérin, lui, n'a même pas comparu.
Non, mais c'est possible qu'un des deux se soit réhabilité, mais... Moi, je pense que quand c'est des dossiers comme ça qui ont été très médiatisés, les commissaires sont encore plus frileux. avant d'y libérer.
Mais c'est pas seulement, c'est pas seulement chez nous, Yves. Toute l'affaire, la saga Charles Manson et sa famille et tout ça, il y a des gens qui ont participé, bien sûr, à des activités criminelles, à des meurtres effroyables et tout ça, mais qui sont admissibles à une libération, qui ont fait leur temps, ça fait 45 ans qu'ils sont en prison, oui. Et qui ne sortiront jamais parce que le crime a été, les crimes ont été trop médiatisés.
Voilà. Et dans le dossier, on a sur une page une liste de criminels condamnés à l'emprisonnement à vie et qui sont décédés en prison sans jamais avoir été libérés. On peut penser à Rock Moïse Thériault, par exemple. On peut parler à Clifford Olson. Il y en a d'autres, Normand Bourque, Gaston Lavoie. Donc, c'est des gens qui n'ont jamais été capables d'établir qu'ils étaient réhabilités. Mais il y a des gens qui sont en prison et qui ne veulent pas sortir, qui fonctionnent mieux en prison qu'en société. La possibilité de sortir après avoir passé 15, 20, 25, 30 ans en prison, ça leur fait peur. Ou simplement, ils continuent d'afficher les mêmes comportements criminels en prison qu'ils affichaient dans la société.
Tu prends le cas de Valérie Fabricante, le tueur de Concordia, qui, il avait une période d'inadmissibilité de 25 ans, possiblement libération conditionnelle qui remonte à 2017, mais lui a toujours dit qu'il a toujours tenté de justifier son crime. Il n'y a pas eu de remords, de culpabilité pour les gestes qu'il avait posés. Il avait dit que lui était la victime.
Oui, et d'ailleurs, il a été déclaré quérulant par la Cour parce qu'il a multiplié les recours judiciaires, puis quand on lit son dossier, c'est la même chose en prison. C'est toujours lui qui est la victime. Ouais. Il voit des complots partout.
Il s'est fait voler des brevets.
Tout à fait. Mais c'est intéressant. Écoute, quand on regarde le portrait global, présentement, dans les pénitenciers canadiens, dans l'ensemble du pays, il y a 5700, il y a 4165 criminels qui sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et qui sont admissibles à la libération conditionnelle. Ouais. Là-dessus, il y en a un sur deux qui jouit d'une forme quelconque de libération. Donc, environ 2029.
Et
donc,
ça veut dire qu'il y en a plus de 2000 qui sont gardés derrière les barreaux.
Absolument. Mais c'est sûr qu'on peut toujours voir il y a deux façons de voir les choses. On peut dire le système est assez sévère parce qu'il y en a 2000 qui pourraient sortir mais qui ne sortent pas. Mais on doit dire aussi qu'il y en a 2000 qui sont en liberté au Canada.
Exact.
Et c'est beaucoup. Et je dis que les taux de récidive sont plutôt bas, mais là, on a eu un cas cette semaine où un de ces criminels-là qui n'aurait pas dû être en liberté, lui aurait dû faire partie des 2000 qui sont toujours en prison.
Ouais.
Et lui a commis l'irréparable dans des circonstances atroces. Et là, évidemment, tous les gens qui sont les détracteurs du système, vont se faire entendre sur toutes les tribunes et ils seront justifiés de le faire. Ils vont dire comment ça se fait que la prison à vie, c'est pas la prison à vie.
Exact. Yves, un document vraiment fascinant, sur plusieurs pages, dans le Journal de Montréal. Félicitations Yves Thériault, merci.
Je t'en prie.
Au revoir. Alors, Yves Thériault, évidemment, je vous ai dit que c'est lui qui avait écrit l'essai « Tout le monde dehors, enquête sur les libérations conditionnelles ». Vous en souviendrez, Thérèse avait fait...
Je m'en souviens, puis je me souviens d'une chose.
Il avait jeté un pavé dans la mare.
Parce qu'il parlait des procédures d'examen qui étaient trop expéditives et que c'était les libérations n'étaient pas accordées au mérite.
Et ce n'est pas une science exacte.
Non, effectivement.
Ce n'est pas science exacte. C'est pas comme réussir... un examen où ça vous prend 60 % pour passer ou 75 %, c'est pas évident, c'est pas une science exacte d'établir hors de tout doute le niveau de dangerosité de quelqu'un. Alors, vous lirez cela, c'est dans le Journal de Montréal, prison à vie, ce dossier qui est publié ce matin.